Le Préac Spectacle Vivant des Pays de la Loire présente la rencontre avec Alexandre Frey, directeur artistique de la compagnie Un Loup pour l'Homme.
Il s'agit donc d'un travail à l'autre, et c'est vrai que c'est constitutif de la pratique même des portées acrobatiques qu'on ne travaille pas sur du solo. On travaille sur du partage, de la rencontre, du faire ensemble qui nous empêche parfois aussi. Et assez vite dans la compagnie, on s'est rendu compte que cette disposition-là, cette pratique-là nous amenait à imaginer aussi beaucoup d'interactions avec ce que j'appelle moi d'autres autres que nos collègues acrobatiques. Et il y en a beaucoup d'autres autres. Il y a vous, il y a l'enfance, il y a les personnes ou les publics dits empêchés, que ce soit en milieu pénitentiaire, en milieu psychiatrique, en milieu hospitalier. On a en pratique, on s'est rendu compte que notre pratique du toucher, du porter, nous amenait souvent aux frontières du monde du soin, avec lequel notre pratique résonne particulièrement, tout en restant, nous, absolument dans un domaine artistique. Et c'est pour ça que ce qu'on fait a de la valeur quand on intervient en hôpital psychiatrique ou moi, effectivement, auprès de personnes très âgées depuis bientôt 20 ans. Je parle tout seul, c'est un exercice qu'on me confie toujours parce que j'y arrive assez bien, paraît-il. N'hésitez pas à m'interrompre hein, sur ces choses-là. Et c'est vrai que ce rapport-là, cette éthique du contact à l'autre, dans lequel on parle aujourd'hui, dans la créate, dans l'espace qui est sous chapiteau, de rapport, on parle parfois d'objet et de sujet. Notre principale recherche ces dernières années sur le spectacle d'avant a été de faire en sorte que dans une relation à l'autre, il n'y ait pas d'objectivisation de l'un des deux, pour que ça soit bien une relation à part égale. C'est vrai d'un pur point de vue du porté, quand on parle de porteur et de voltigeur en cirque, on voit souvent le porteur comme quelqu'un qui est actif dans le verbe même, je porte, donc tu es porté, comme le chat mange la souris. Donc on projette souvent le voltigeur un peu plus passif. En cirque, on dit souvent au voltigeur de rien faire, comme si rien faire n'était pas une action en soi. Nous, on s'est beaucoup amusé à travailler, par exemple, j'aime beaucoup une sorte de néologisme qu'on utilise un peu, si je pèle la voltige sur moi, ça veut dire que moi, porteur, je suis voltigé, ce qui permet de rééquilibrer aussi. En cirque, on a par endroits des gens qui font de la jonglerie ou de la manipulation d'objets. Et là, on parle d'un objet. On a par ailleurs des gens qui font du trapèze ou du trampoline. On parle plus d'un agrès suivant qui s'adapte à l'autre. Et nous, il a été assez important dans notre relation aux portées de faire en sorte que ces deux rôles soient bien complémentaires. Et c'est ce qu'on travaille aussi quand on va bosser, effectivement, des fois avec des profs et des élèves qui ont un rapport a priori fléché d'un sachant vers un apprentissant, ce qu'on retrouve beaucoup, ou en tout cas ce que je vois beaucoup aussi dans les EHPAD, en termes de corps médical et patient, et ça se voit un peu, on s'amuse beaucoup à jouer, à retourner ces relations-là, en particulier sur ces jeux de confiance que vous avez sans doute abordé un peu ce matin, de tomber en arrière. Quand j'arrive dans un EHPAD, c'est toujours l'infirmier qui veut que la personne âgée tombe en arrière. Or, j'aime assez bien faire l'inverse, y compris avec des enfants. Quand on fait de l'aveugle, demander à un gamin de primaire qui est potentiellement celui qui est dissipé, qui est un peu le cancre, de, par contre, promener son instinct, sa prof, sa maîtresse, qui, elle, a les yeux fermés, est toujours des endroits assez intéressants. Donc, il y a ce truc-là de faire en sorte que toute personne avec qui on travaille soit bien un sujet en face de nous et d'essayer même, en tant que porteur, qui évidemment apporte une certaine dose de confiance à ces mamies là qui sont à un moment de leur vie où ça devient moins simple, où le cercle de peur se met en place. Est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait plus faire? Qu'est-ce que je pense savoir faire? Qu'est-ce que je crois plus possible, dont je le fais plus, donc mon corps ne le fait plus, donc je me mets en danger? Et comment je cherche surtout avec elle à remettre en place une spirale qui va, je dirais, dans le bon sens, de surtout plutôt que de réussir, d'oser faire. On a toujours défini l'acrobate non pas comme quelqu'un qui vient prouver qu'il sait faire un truc, mais comme quelqu'un qui vient faire une tentative. Je ne tiens pas sur mes mains en équis, j'essaie de tenir sur mes mains en permanence. Et ça, fondamentalement, dans la manière dont on entre sur scène, c'est extrêmement différent. Et chez les personnes âgées, évidemment, c'est important parce que je ne leur demande pas de faire un salto. Je leur demande en gros d'essayer de monter sur une chaise. Et vite, elles sont bloquées parce qu'elles me disent « Ah, mais mon bon monsieur, j'y arrive plus, je suis trop vieille. » Et mine de rien, même dans leur image, elles ont ce truc de croire que ça ne vaut pas le coup de le faire sur scène parce qu'elles n'y arrivent pas. La logique du résultat est extrêmement présente dans le cirque, dans la société en général. Et c'est un peu bateau de philosophie zen à deux balles de dire que c'est le chemin qui compte, mais quand même, c'est quand même vrai que c'est le fait d'essayer qui pour nous est vachement important. D'où le fait qu'on a toujours toléré et même essayé de faire en sorte que ça tombe au plateau, de mettre en scène des figures où on sait pertinemment qu'on va tirer l'élastique un peu trop loin, comme ça il va casser, comme ça on va tomber, que l'être humain est quelqu'un de faillible et que c'est important que l'acrobate n'est pas là pour se faire passer pour un super-héros, à notre sens. Il a ses moments de gloire et il a ses petites faiblesses aussi. Et de toute façon, et c'est relativement ça que j'explore moi avec les mamies, là, c'est qu'il suffit de déplacer la ligne pour trouver l'endroit où ça va devenir dur pour n'importe qui. Pour un acrobate, ça sera peut-être à l'endroit du double arrière. Pour quelqu'un, ça sera à la roulade avant. Pour la grand-mère, ça sera potentiellement tenir debout. Mais on a tous nos propres limites. Donc l'exploit, il est toujours là où ça devient un petit peu frontière. Et c'est ça que je trouve intéressant en face de différents publics. C'est quoi cette frontière-là ? De ne pas préjuger qu'on va la mettre là-bas, mais d'essayer de sentir. Et là, j'ai entendu le mot d'écoute tout de suite en arrivant. Et c'est vrai que ces publics-là, moi, m'ont vachement appris... Parce que je pense qu'il y a pas mal de profs entre vous, de gens qui donnent des cours. Pendant longtemps, je préparais beaucoup mes cours, de mes interventions pédagogiques. Et plus j'ai été en face de public qui, en EHPAD, je me suis retrouvé devant des groupes de gens dont je voyais bien que certains ne comprenaient pas vraiment ce que je leur disais. En hôpital psy, encore plus, je dis quelque chose, moi, mais l'autre en face entend quelque chose de ma consigne ou la comprend pas parce qu'Alzheimer, parce que troubles qui ne m'appartiennent pas. Et j'ai appris à beaucoup préparer suffisamment, mais après, me retrouver comme en impro, de la même manière que nous, on écrit aujourd'hui nos spectacles avec ce qu'on appelle des jalons. On fait des sortes de slalom, c'est pas des chemins précis, on sait qu'on va se retrouver, mais il y a quand même pas mal de liberté, histoire de rester bien dans ce qui se passe maintenant, et de pas être juste, encore une fois, dans un chemin préconçu. Et ça, je me suis rendu compte, c'était la même chose en pédagogie qu'en écriture de spectacle.
Par rapport à ton rapport au cirque et à l'acrobatie, justement, en quoi le cirque est un outil particulier dans cette approche-là, dans cette manière d'aller rencontrer et de faire des choses avec les autres, qui ne pourraient pas se retrouver peut-être nécessairement avec d'autres arts ou différemment?
Il y a pour moi dans le cirque un truc assez étonnant qui est un rapport qui me questionne encore à chaque fois qu'on fait un spectacle, qui est une sorte de rapport au réel. Je dis en sous-titre de la compagnie Un loup pour l'homme, le cirque, un art de l'action. C'est pas tant un art de la représentation, j'essaie pas de me faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est bien moi et toi éventuellement en train d'essayer de faire un truc ensemble. Et c'est ce rapport au très concret, je crois, qui me taraude et qui fait que ce médium-là, il est pas de l'ordre, c'est pas du mouvement. Enfin, c'est différent, on parle souvent avec Pella en particulier qui vient plutôt du milieu de la danse par exemple, on a beaucoup eu cette discussion de c'est quoi la ligne entre nous, des acrobates qui bougeons, qui n'avons rien que le corps aussi la plupart du temps pour s'exprimer, et la danse. Mais il y a pour moi un rapport au concret, ouais, au fait que, tu vois, tenir debout. Tu vois, je suis allé chercher des gens pour qui juste c'est difficile, pour qui tenir debout, c'est pas une évidence. Et en fait, je me suis retrouvé à les parer, tu vois, de la même manière qu'en cours d'équi, moi j'ai appris à Chalon, à l'école, à tenir sur un pied. J'ai appris à tenir sur une main. Et mon prof, il me prenait le bassin pour me mettre sur une main. Je fais la même chose avec une grand-mère pour la tenir sur un pied. Sauf que elle, c'est pas une figure de cirque, c'est une nécessité pour pouvoir marcher au quotidien. Mais en fait, c'est un geste éminemment acrobatique. J'arrête pas de dire que la bipédie, d'un point de vue de l'évolution animale, c'est éminemment acrobatique. C'est quand même mal foutu de se mettre sur deux pieds. Il y a quand même pas beaucoup d'animaux qui ont fait ce choix-là dans l'évolution. Ça tient pas très bien en soi. Tenir debout, c'est suffisant pour être un geste acrobatique si... Il est mis en valeur correctement, et ça, beaucoup après la mise en scène, c'est du cadre qu'on dessine autour des choses qu'on présente. Et le cirque, pour moi, c'est ça, c'est un rapport à une situation... Alors après, moi, je fais du cirque porté acrobatique. Je viens de la jungle, je viens du judo, en vrai, à l'origine, donc d'un rapport au contrepoids, au contact et au poids, où surtout, il s'agissait de faire tomber l'autre. Maintenant, il s'agit surtout de ne pas le faire tomber, mais c'est quand même un peu la même chose, finalement. Mais je suis dans un rapport à deux. Et moi, toi, tu me poses la question sur le cirque, je pourrais quasiment y répondre au sein des portées acrobatiques. que j'isole quasiment comme une discipline en soi. Ma question profondément aujourd'hui, c'est qu'est-ce que porter ? Moi, ça fait 20 ans, 25 ans que je porte des gens. C'est la question que je me pose quand je travaille avec des grand-mères. En réalité, mon projet grand-mère, les gens me disent que je travaille sur la vieillesse. C'est pas vrai. Je me questionne sur qu'est-ce que c'est que porter ? Qu'est-ce que c'est que prendre soin ? Qu'est-ce que c'est que prendre en charge ? Qu'est-ce que c'est que donner confiance ? Qu'est-ce que c'est que se faire marcher dessus toute la journée ? Et c'est surtout les portées acrobatiques que je trouve comme outil passionnant. C'est le duo. Ça pourrait être le tango, ça pourrait être le judo, c'est les portées acrobatiques, c'est les mêmes combats. C'est l'autre et un autre que moi. Et il y a forcément un deal à trouver, un consensus, un équilibre qui n'est jamais parfait. Dans la communication humaine, il y a des moments de magie où d'un coup, tac, tu marches exactement en même temps. Mais en vrai, c'est jamais que du micro-conflit. Il y a quand même toujours des rapports de ping-pong entre qui demande, qui suit, qui renvoie. Et c'est de la socio, en fait.
Dans le travail du répertoire de la compagnie, il y a à la fois un travail sous chapiteau autour du cercle, il y a un travail sur le quadrifrontal, il y a eu tout un ensemble de relations au public. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la compagnie a eu de cesse d'évoluer dans sa relation à la fois au public, à l'espace et à faire en sorte que les différents projets que la compagnie porte soient toujours dans un nouveau dispositif d'une certaine manière et qui, du coup, moi, je trouve, nous inclut toujours dans la relation au spectacle et pas simplement dans une situation frontale d'un quatrième mur.
C'est la question du réel dont j'ai parlé un peu avant. Là, je trouve ça super. Bon, pour parler, c'est pas très pratique. C'est vrai que c'est pas l'espace de la parole du tout. Encore une fois, là, il y en a à qui je tourne le dos depuis tout à l'heure, depuis que je parle. C'est fait pour être vu. Moi, fondamentalement, j'ai du câble, hein. Ouais. C'est que quand t'es, à part le premier spectacle, qui était vraiment frontal, et grand-mère qui leur devient, et je pourrais t'expliquer pourquoi, on a fait le choix, dès la deuxième pièce, d'être entouré. Effectivement, d'être dans ce format-là, de jouer au loup, les yeux fermés. Et c'est pas moi qui montre. C'est bien, moi je m'occupe de faire ce que j'ai à faire. Si je dois chercher quelqu'un, c'est ça que je suis en train de faire, je cherche quelqu'un, et c'est le public qui me voit. Au contraire, je crois du dispositif théâtral qui est fait pour vraiment mettre en scène, qui est fait pour choisir des valeurs d'entrée de profondeur, où je sais pertinemment que je peux travailler sur l'image, puisque j'ai un cadre de scène, ça s'appelle un cadre, et pour moi ça devient de la peinture. Alors que pour moi, on est dans la sculpture, on est dans le 3D. Le cirque a ce rapport très fort au réel et au corps dans l'espace. Je jette un objet, il y a des courbes, il y a des trajectoires, il y a un volume du corps. On n'est pas dans l'image du corps, on est bien dans la réalité du corps faisant. Et ça, pour moi, ça ne pouvait plus être intellectuellement que du 3D. Faire ce qu'on a fait sur Face Nord en frontal, c'est intellectuellement pas possible. Ce serait un contresens. Et je crois, curieusement, alors que le mode cercle avait un petit peu, enfin il est devenu minoritaire aujourd'hui dans le cirque contemporain pour des raisons pragmatiques de diffusion dans les salles théâtrales. Le mode frontal est extrêmement puissant, hein, il sert à quelque chose en théâtre, hein, il est extrêmement précis pour faire des choix, pour dire que je veux dire ça. Mais nous, quelque part, on se contente d'être vu, on se sait vu. Et le fait est que le public sait qu'il est un public, puisqu'en face de lui, il y a un autre public, donc il y a un rapport. Et que ignorer cette présence du public devient aussi paradoxal. Le public sait qu'il est un public au cirque. Au cinéma, par exemple, typiquement, tu peux oublier qu'il y a du monde. Tu te projettes dans l'écran, tu te fais aspirer par l'image, potentiellement, tu es seul devant le film. En cirque, c'est mort. Enfin, c'est paradoxal. Et aujourd'hui, on fait un travail de scéno dans le chat pour bien dire qu'à partir du moment où on passe la toile du chapiteau, nous sommes dans le même espace. Vous et votre physicalité, vous public, vous maintenant, physiquement, vous êtes là, je peux vous toucher. Potentiellement au cirque, je vais venir te prendre et tu vas venir faire un truc sur scène avec moi. Le public le sait, il n'aime pas trop le premier rang, parce qu'il s'en doute un petit peu qu'il n'est pas protégé comme au théâtre. Au théâtre, en vrai, moi je trouve ça... Enfin, j'aime plus ça, jouer en frontal. Parce que t'es sur scène, t'as les projos dans la gueule, t'as un nez de scène qui descend, t'as une fosse d'orchestre, parce qu'il y avait un orchestre à une époque, et le public, il est à 8 mètres, tu le vois pas, il existe pas en fait. D'où le quatrième mur par nature, que tu peux un peu triturer pour faire disparaître, mais le théâtre est fait pour le quatrième mur. Le cirque pas, le cirque est fait pour que tu puisses toucher les gens, que tu puisses lancer une balle dedans, et c'est chouette quand tu te sens dedans. Tu vois, dans Face Nord, encore une fois, dans le carré, on avait décidé que la limite de la scène, c'était à peu près ça, là. Des gens qui, des fois, mettent même les pieds sur le tapis et comme ça, hop, quand tu arrives, ils sont obligés de les retirer. Mais là, c'est quasiment c'est le public physique, la limite de notre aire de jeu. Dans l'espace, ce sera le cas. Il n'y a plus de délimitation au sol de l'espace qui m'appartient moi. Moi, j'aime bien que ça contribue à faire de l'artiste de cirque quelqu'un qui est un être normal. Tu vois, sur scène, parce que sinon, on a beaucoup eu cette question de surélever la scène. Mais dès que tu surélèves, en fait, c'est un piédestal dans un musée. En fait, tu deviens une œuvre d'art. Tu deviens quelque chose d'autre. Dès que tu montes même un petit peu, hop, tu regardes un petit peu d'en haut, quoi. C'est un peu tac. Alors qu'en vrai, quand tu es à même le sol, dans la sûre, dans la poudre de bois des débuts du cirque, t'es quand même dans une, je sais pas. Après, t'es dans une classe sociale, t'es dans un rapport à l'autre qui te met pas a priori au-dessus.
Sur le projet Grand-Mère, du coup, tu disais que tu avais fait un choix spécifique du frontal. Pourquoi ?
Parce que la grand-mère est pas assez, elle serait trop en danger et trop nue au centre. Et que pour le coup, on fait des choix plus précis. On a rethéâtralisé la... Alors c'est curieux parce que c'est un rapport extrêmement direct. C'est des personnes que je rencontre au Mans il y a 4 jours. À l'extrême, c'est des gens que parfois j'avais rencontrés le matin pour jouer le soir. Qui sont pas des professionnels, qui savent pas la partition vraiment, à qui je demande l'humilité de venir me faire confiance et de faire des choses avec moi plus ou moins en direct. Donc il y a, et en ça c'est très cirque, en ça c'est vraiment de l'action directe. C'est bizarre, ça ramène à autre chose, mais c'est très concret. Et par ailleurs, on a travaillé, il y a de la vidéo. C'est le premier spectacle et c'est le seul de la compagnie. On a, parce qu'il y avait le projet Grand-Mère existe dans sa forme visible, qu'on joue, qui est un spectacle, mais il existe en soi dans l'action de faire le porter pour la première fois dans la cuisine de la grand-mère. C'est un geste qui à l'origine est quasiment performatif, dans le sens où ce qui comptait c'était bien d'aller voir une mamie chez elle et lui proposer « Janine, est-ce que vous voulez bien que je vous prenne dans mes bras et que je vous porte ?» Et ça, il n'y avait personne pour le voir, puisque ça se passe chez elle et que c'est presque ça, le fond de l'action de grand-mère, c'est ça. C'est ce geste-là qui n'est pas forcément visible. Et là, je ramène quasiment... chez certaines, il se passera pour la première fois sur scène parce que je vais y faire des choses qu'on n'a pas répétées. Elles ne savent pas ce qu'on va venir faire sur scène. Et du coup, on l'a documenté. On s'est rendu compte à un moment donné qu'il fallait le documenter pour que ça existe. Au-delà de ce qui s'est passé entre elle et moi dans sa cuisine, dans son salon, dans son EHPAD, dans tout ça. Et la vidéo a réimposé le cadre frontal, en fait. Et même le dispositif audio, il y a de la voix. C'est un triptyque, en fait, voir, toucher, entendre, qui est les trois niveaux du contact dont je parlais au début. Il y a un film pour voir, il y a l'action qu'on fait ensemble, qui est de l'ordre du toucher et du faire, et il y a ce qu'elles disent, qui est de l'ordre d'écouter.
Est-ce que par rapport à ce que vous avez vécu ce matin ou les propos que vient de nous partager Alexandre, il y a des questions, des interpellations, des envies d'en savoir plus sur certains aspects?
Sur le projet Grand-Mère, je suis complètement intriguée parce que j'ai vu la petite vidéo que Myrto nous a envoyée. Mais c'est vrai que c'est incroyable parce que les personnes âgées, on a besoin d'avoir un rapport de confiance pour pouvoir faire un geste artistique avec elles. Et là, du coup, je suis impressionnée. Elles viennent sur scène sans avoir jamais eu de rencontre forcément ou 4 jours avant. Et elles arrivent comme ça à... Donc, tu disais, tu as beaucoup d'improvisation dans tes spectacles. Donc, comment tu les amènes à être devant un public et à se laisser porter par l'improvisation en toute confiance sans t'avoir connu avant et... voilà.
J'en sais rien, j'y arrive bien. C'est que en vrai, profondément, encore une fois, je me questionne moi sur mon être porteur. Qui, sans doute que il y a chez le porteur, on pourrait en parler avec Léon, avec d'autres porteurs, je ne dis pas qu'on est tous pareils dans ce métier-là, mais il y a sans doute une nature de fond. On n'est pas porteur uniquement parce qu'on est grand et costaud, c'est pas vrai. On est porteur parce qu'on a une vocation quelque part à prendre soin de l'autre. Quand je faisais du sport, en dehors du judo, j'étais gardien de but, gamin. C'est un truc que je me rends compte a posteriori, j'étais pas attaquant, j'ai fait de la musique, j'étais pas trompettiste, j'étais pas le soliste, j'ai toujours été la ligne de basse, j'ai toujours été un rempart. C'est d'abord une disposition psychologique, en tout cas c'est celle qui m'intéresse dans ce boulot-là, c'est qu'est-ce qui fait que des gens vont se tourner vers l'humanitaire, vers le métier médical. Il y a une énorme proximité de caractère entre les aides-soignants et les porteurs en vrai, c'est typiquement le même genre de personne. Et après comment tu fais ? J'ai pris beaucoup de râteaux quand même. Parce que le boulot de ce spectacle, de Projet Grand-Mère, c'est je vais voir des femmes que je connais pas et je leur demande de me dire oui. très concrètement. Dramaturgiquement, il s'agit de ça. J'ai pris un tas de râteaux parce que je ne savais pas encore les approcher, leur parler, les toucher. Et au final, encore une fois, là, on a un chat sur le terrain qui n'est pas à nous, mais on a monté le chapiteau. Il se trouve qu'on est chez le chat, en fait. Ce n'est pas lui qui vient chez nous. Je pense que c'est nous qui avons monté notre campement chez lui. Eh bien, ça prend quelques jours à le... Tu vois, comment tu l'approches? Comment tu fais que l'animal, il ne grogne pas quand tu ne le connais pas? Comment tu arrives à la bonne vitesse? Comment tu écoutes les petits moments de réaction épidermique de là, elle a un peu peur? Il faut assumer ton rôle. Si tu n'es pas convaincu que ce que tu fais est juste, si tu as une once de doute dans ce que tu proposes quand tu es porteur, et c'est là où, en vrai, il y a même une limite technique. Quand tu es porteur... T'as un gars au-dessus de toi, un gars, un partenaire qui est là, à qui tu vas dire, tu vas faire un salto, je vais te rattraper. Et franchement, moi, j'irai jamais là. Moi, je suis bien par terre, hein, on est d'accord. C'est pas mon boulot que d'être là-haut et de sauter. Moi, je suis par terre, je sais pourquoi. Et à un moment donné, je me suis retrouvé en situation de me rendre compte que si moi, j'ai peur de pas le rattraper, lui, c'est mort. Il pourra jamais sauter. Et qu'en vrai, même si moi, j'ai peur, je me dois, pour la sécurité, de lui dire que j'ai pas peur. Donc en fait, c'est pas vrai que c'est juste honnête, je mens à mes partenaires en permanence. Je mens à ses grands-mères en permanence. C'est un jeu de séduction, c'est un jeu de communication. Elles en sont pas dupes, elles en sont même sympathiquement ravies en fait. Parce qu'il y a ça, il y a un truc qui est désarçonné par l'âge. Parce qu'il reste du rapport amoureux, c'est un rapport à la femme, c'est un rapport d'un mec à une femme, ou à plusieurs. Et comment, j'en sais rien. Comment je fais pour faire marcher des gens en EHPAD que les ergots et les... arrivent plus à faire marcher? Parce que je sais pas qu'elles se lèvent pas. Tu vois, c'est là où il faut surtout pas être corps médical. Moi, je me retrouve devant des gens en fauteuil et je leur dis « Monsieur, vous voulez vous lever ?» Je lui prends la main, on se lève. Et là, t'as tous les soignants qui font « Ah ! On l'a jamais vu debout !» Ben oui, mais parce que vous l'avez jamais vu debout, vous auriez jamais demandé de se lever, en fait. Sauf que moi, j'en sais rien. Il s'est levé, après, j'en sais rien, il y en a d'autres, j'en parlais hier soir, il y en a d'autres que je sais pertinemment qui pourraient se lever, et j'ai pas réussi à les convaincre, et se pose la question de pourquoi moi je veux le convaincre de se lever, alors que lui dit qu'il veut plus, en fait. Et c'est plein de trucs éthiques, c'est assez passionnant, moi j'adore ce projet, il est juste passionnant, en fait. C'est vraiment, profondément, là où j'ai le plus appris en tant que porteur. Aussi parce que moi, des acrobates, bon, de temps en temps, on peut prendre des tôles. Ça arrive à l'entraînement acrobatique, évidemment, on rate une figure, on recommence. Les grands-mères, c'est du sans-filet, 100%, tout le temps. Je ne peux pas les laisser tomber, c'est impossible. Je leur dis que je vais les rattraper, je les rattrape. Sinon, c'est un col du fémur direct. Et c'est pas la même, quoi. Et elles le savent, c'est des gens qui sont retrouvés une fois, 18 heures, le nez dans son jardin. C'est des gens qui peuvent profondément... Les personnes que je cherche, c'est pas le cas demain, mais sont en général des gens qui ne savent pas se lever seuls. Un truc de ouf. Nous, on est acrobates, on fait des pirouettes, on grimpe au trapèze et tout. C'est des gens qui ne peuvent plus se lever seuls et à qui je demande de tomber en arrière. Je leur demande de se suicider dans mes bras, en fait. Et elles le font. C'est quand même ouf. Moi, en termes de courage, je les remercie à chaque fois. Je vois des mamies qui le font, qui viennent faire l'atelier. C'est juste, je trouve, d'un positivisme absolu. C'est pas toutes les grands-mères. On est d'accord, c'est celles qui viennent à l'atelier. Hein. Ça reste une minorité, je crois, malheureusement.
Oui, bah c'est une question en écho à ce que tu viens de dire par rapport aux soignants ou par rapport aux ergothérapeutes ou aux kinéthérapeutes. Est-ce que du coup, ils se servent quand même de ton travail pour, une fois que la compagnie est partie, est-ce qu'il y a une suite? On aura envie de se dire, c'est dommage que ça soit un one-shot pour le projet, puisqu'il y a autant d'effets positifs. Est-ce qu'il se passe des choses après?
Ben, quand on a eu l'occasion en EHPAD, effectivement, c'est drôle que tu parles d'ergo et de kiné. Juste parce que c'est une question qui m'habite beaucoup, y compris dans... Moi, je vieillis, hein. En vrai, je suis un vieil acrobate. Je fais plus non plus, les grands-mères me disent, mais je cours plus. Moi, je fais plus les saltos que je faisais quand je suis sorti d'école non plus, en réalité. Hein. L'ergo, c'est quelqu'un qui vient... En tout cas, le kiné est quelqu'un qui vient, après une blessure, chercher à récupérer la capacité du corps. L'ergo, lui, il a un autre point de vue éthique. Il dit, le corps étant ceci, comment on va faire avec? Il y en a un, c'est du cure, en anglais, il va soigner, et l'autre, c'est du care. Il va faire pour moi, et j'aime beaucoup ce truc-là. Est-ce qu'on va chercher à récupérer ou est-ce qu'on va faire avec? Il faut toujours un peu des deux, en vrai. Et oui, on a beaucoup échangé sur les méthodes, sur les exercices. J'ai rencontré des gens dans les milieux... Alors, c'est dégueulasse, leur langage. Ils appellent ça de la manutention. La manutention, ça veut dire bouger des gens dans le langage du... Maintenant, ça change un peu. Mais j'ai rencontré un kiné qui était prof d'aide-soignant et qui leur apprenait à porter des gens, en fait. En fait, il était prof de portée. Et je me suis dit, c'est rigolo quand même, toi, t'es là pour... Et on a fait des cours, enfin, je l'ai assisté, j'ai regardé comment lui apprenait aux gens à se lever, parce que lui, il a des techniques. Moi, j'y vais à l'empirisme total. J'ai quand même commencé ce process, je connaissais rien d'autre que ma pratique de cirque, sauf que ma pratique de cirque et ma pratique articulaire, de sentir à quel moment ton épaule, elle est en bout de course, honnêtement, elle est bien plus fine de l'intérieur que la plupart du corps médical. En vrai, qui n'en savent rien, qui en ont une connaissance livresque en grande partie. Et vrai, moi, je dis, enfin, les grand-mères, je les laisse se lever comme elles veulent, en fait. Et il y en a, je sais bien qu'elles ne devraient pas faire comme ça. De toute façon, le cirque, on ne devrait pas faire du cirque. Enfin, un poignet, ce n'est pas une cheville. On marche sur nos mains en permanence. Je leur fais faire des trucs qu'elles ne devraient pas faire. Mais c'est le but du jeu. La société n'arrête pas de leur dire que madame, il ne faudrait plus faire ça. Madame, il ne faudrait pas monter sur votre chaise pour faire les carreaux. Elles me disent toutes, je ne dis pas à mes enfants que je viens faire ce que je fais, sinon ils ne seraient pas d'accord. Hein. Mais je le fais quand même. Hein. Et c'est ce truc en permanence, faire ou pas faire. C'est ce choix cornélien qu'on a tous en permanence. À quel moment il faut lutter, c'était face nord, lutter jusqu'au bout, un espèce de jusqu'au boutisme de ça va passer, on va rentrer dedans, on est costaud, on fait du cirque, on va prendre l'obstacle dans la gueule et on passera à travers. Et à quel moment il faut se dire que, en fait, celui-là d'obstacle, il est un peu quand même coriace, peut-être je pourrais contourner. Et je trouve que physiquement, c'est une question qu'on se pose en permanence, nous, concrètement. Et sans doute que ces personnes-là se le posent dans la vie ou que leurs enfants se les posent pour elles, à quel moment je mets ma mère en EHPAD, quoi. Et c'est la même chose que moi, à quel moment je m'entraîne encore absolument à faire un salto. Mon kiné m'a dit il y a fort longtemps que c'était un combat perdu d'avance, que de toute façon, un jour, je ne ferai plus de salto. Et c'est vrai. Un jour, je ne ferai plus de salto. En vrai, ce jour est déjà arrivé et je ne sais pas c'était quand mon dernier salto. Mais de fait, j'en fais plus.
Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, sur la question de la souffrance et la part, en fait, dans tout effort physique, il y a une part de souffrance. Et certains pêchements plutôt. Et quelle place tu mets à ça dans ton rapport, justement, avec ces publics?
Ben avec ce public-là, et pas, enfin, je veux dire, c'est une super question. Le cirque a un problème intrinsèque et ancestral avec la douleur. Mon prof d'acrobatie disait quand même un acrobate qui n'a pas mal est un acrobate qui est mort. Il avait un peu raison, malheureusement. Sauf que on est dans une logique, et peut-être Léon pareil, on est, nous en école de cirque, je ne sais pas où on en est aujourd'hui ici ou quoi, on nous apprend à encaisser la douleur, surtout chez les porteurs. Un porteur, t'es un mec, t'es costaud, t'es pas censé te plaindre, c'est comme ça, c'est quand même très à l'ancienne. Hein. Il y a des valeurs dans le cirque qui sont aussi un peu dégueulasses quand on les, détricote pas. Hein. Et on a mal en permanence, on a en permanence un partenaire qui nous dit « Ah, je peux pas faire, j'ai mal », tu peux pas le vérifier, tu sais pas, tu peux que le croire en fait. Parce que sinon t'as envie de dire « Mais non, c'est bon ». Et si t'as un prof qui tire un peu, c'est vite, t'es pas une chochotte. Et tout ce vocabulaire-là qui va derrière, qui arrive très très vite quand même dans l'enseignement. Et les personnes âgées, ben, elles, en fait, elles ont ce truc de qu'une fois que la confiance est mise en place, elles assument de dire. En fait, moi j'aime beaucoup les vieux parce qu'ils ils en ont rien à secouer en fait. Les Jeux Olympiques, c'est derrière eux depuis longtemps. Et quand ils ont mal, ils te le disent. Et c'est pas si vrai que ça. Ceux qui m'ont dit, le groupe de personnes qui m'a dit le plus clairement quand ils avaient mal, c'est des handicapés mentaux. Que j'ai eu il y a 2 mois, là, à la compagnie de l'Oiseau Mouche, et j'étais surpris de leur transparence absolue. Dans ça, j'aime pas. J'ai pas envie de le faire, cet exercice. Il n'y a pas de bienséance. Parce que curieusement, la grand-mère, c'est une femme, elle a sa bienséance. Il y a le quand dira-t-on, il y a la voisine qui va parler, il y a le je veux bien passer, mais attends, je vais me changer et je vais refaire ma mise en pli. Parce que là, je vois qu'il y a quelqu'un qui va me prendre en photo et il est hors de question que je ne sois pas maquillée. Je ne m'y attendais pas chez la personne âgée. Et en fait, l'image de soi est importante. La douleur, c'est chiant. On a mal, on ne sait pas combien. T'essayes, tu regardes. Et encore une fois, il y a la parole, et puis moi je trouve que ce qui... Tu vois, tu tords le bras de quelqu'un, à un moment donné, il y a les sourcils, il y a la grimace, il y a tous les non-dictes, quand tu, il faut le sentir. Il y a un moment donné, quand tu pousses, quand tu marches en aveugle, il y a quelqu'un, il y a des résistances du corps. Et là, je pense que le meilleur moyen, c'est la main. C'est la main qui voit le mieux quand le corps souffre. C'est quand tu touches et que tu sens le... Elle dit pas. Moi, je fais beaucoup parler maintenant. C'est un truc que j'ai développé dans mes ateliers. Quand je fais des portées avec des gens, je leur demande « Tu peux me parler, là ? Ça va ?»«
Oui, ça va !»
Elle te dit
« Oui, ça va !»
C'est pas possible, ça va pas. C'est impossible. Si tu parles pas normalement avec une colonne d'air, un peu posé, c'est que t'es pas bien en fait. Soit t'as peur, soit tu flippes, soit t'es tendu. Mais la douleur, c'est... J'ai pas tranché, moi. Sur l'acquisition, parce qu'il y a un minimum d'acquisition technique quand même à l'origine. Enfin, il y a des disciplines, en fait, le machinois, le trapèze, la corde lisse. Je suis désolé, ça fait mal. Ça fait atrocement mal, en fait. Après, on s'habitue à tout. Moi, je fais des scènes dans le spectacle, là, je me fais marcher dessus. Léon, il aime pas ça. Et c'est vrai que je me suis habitué. La douleur est un signal qu'on apprend à ignorer plus ou moins. Parce qu'il y a la douleur qui te dit « ça fait mal ». Et il y a la douleur qui te dit « ça, c'est vraiment pas bien ». Et en cirque, on met la barre un petit peu loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Genre, enfin, on sait plus. On sait plus et après, on se retrouve avec des gens qui mettent la barre à différents niveaux et on a... c'est pas simple.